Luana Vergari, Dougadline, bonjour. Alors, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Dupuis d'Harry Dickson, tome 1, Mystéras, dont vous avez écrit le scénario d'après une histoire originale de Jean Rey. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu la genèse du projet et finalement pourquoi Mystéras, qui est le 103e album finalement de ses aventures.
Eh bien, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix, puisqu'il y a 178 épisodes publiés des aventures de Harry Dickson, dont Jean Rey a écrit entièrement plus de 120. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de
possibilités. Il y a Mystère aussi là-bas. Hein,
oui, il y a des épisodes. En fait, il avait été embauché comme traducteur de ces fascicules allemands publiés à partir de 1907 en Allemagne, jusqu'un peu après la Première Guerre mondiale, qui plus tard sont rachetés par un éditeur d'Amsterdam qui décide donc de les traduire en langue française. Et Jean Rey, à l'époque, sortant de prison, a besoin de bien refaire un peu sa santé financière et accepte ce travail un peu ingrat parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup à l'époque de crédibilité dans les milieux littéraires bruxellois, où il essayait de prospérer avant cette mésaventure et le passage par la case prison, comme on dit. Il se retrouve à devoir s'occuper de textes fort médiocres et ennuyeux. Assez rapidement, il se dit qu'il aura meilleur compte à d'abord retoucher les histoires, puis finalement, cédant à l'enthousiasme, à les écrire entièrement. Donc il propose à l'éditeur d'inventer tout, de ne pas traduire, mais d'écrire lui-même des histoires originales. Et c'est ainsi qu'il est l'auteur de entre 120 et 130 aventures de Dickson qui sont publiées à partir de 1932.
Alors je me demandais finalement, vous travaillez tous les deux, vous collaborez avec les éditions Dupuis, Luana dans le cadre de la Webtoon Factory. Vous avez déjà édité à plusieurs reprises sur Air Libre, dont notamment Nada, d'un certain Jean-Patrick Blanchette, non, mais ça.
Oui, tout à fait, j'en suis à ma cinquième adaptation des romans de mon père avec mon camarade Max Cabane, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble là-dessus, et toujours avec autant de plaisir, là on est sur le prochain.
C'est vous qui avez présenté le projet, ou c'est Dupuis qui vous a dit, tiens, finalement, ce serait
intéressant?
Alors,
il se trouve que Dupuis avait envisagé à un moment le rachat de la maison d'édition ARBD, qui avait publié à partir des années 80 une douzaine, je crois, d'albums adaptés de Harry Dickson, l'histoire originale scénarisée sur le personnage. Donc, bon, en entendant parler de ça, j'apprends qu'il y a peut-être une possibilité donc, de reprendre le personnage de Harry Dickson, s'il y a aussi reprise de cette maison d'édition et de son catalogue. Et puis finalement, tout ça traîne un bon moment, et la chose se résout par le fait que la volonté de faire Harry Dickson étant partagée entre Dupuis et nous, on se retrouve à simplement acquérir les droits des nouvelles de Jean Rey auprès de son actuel ayant droit, qui est, je crois, son arrière-petit-fils. Voilà, donc tout ça, nous permet de nous relancer dans une nouvelle version, en fait, puisque c'est ça, une espèce de réinvention de Harry Dickson qui est affranchi des adaptations précédentes et qui, j'espère, est beaucoup plus fidèle et dans l'esprit de ce qu'avait écrit Jean Rey, puisque notre but, c'était vraiment de remettre un peu Jean Rey sur le devant de la scène et de le faire connaître à une ou deux générations de lecteurs qui n'étaient pas familiers de son nom, malheureusement, ni de son œuvre.
Qu'il n'y a que lui sur la couverture.
Oui, c'est aussi pour ça, c'est parce que l'enjeu, là, il était d'un point de vue à la fois éditorial et même artistique, ou je dirais presque moral, c'est plus de faire relire cet auteur, de faire redécouvrir l'importance de son travail, et c'est vrai que les gens des générations plus jeunes n'ont pas forcément été au contact avec lui, et même rares sont ceux qui, à moins de 30 ans, ont déjà entendu ce nom, alors que c'est un grand, grand auteur de la littérature belge, ou franco-belge, ou franco-flamando-belge.
Comment ça se passe, une scénarisation bicéphale?
On travaille ensemble, on partage chapitre par chapitre les travaux. On avait beaucoup discuté comment on va l'adapter, donc on était d'accord qu'on va mettre en valeur, comme vous le disiez, vraiment les textes de Desjardins et vraiment les romans. Donc, on utilise le maximum des dialogues qui sont déjà présents dans les récits. On accepte tous les récits, donc on accepte aussi ce côté mystérieux, c'est le fait que à la fin on puisse avoir une explication rationnelle, mais que peut-être c'est pas très très strict, peut-être il y a des petites choses qui, si on va vraiment bien regarder, ne sont pas forcément complètement logiques. Donc on se donne vraiment un peu la voie à suivre. Et puis, on fait plutôt un travail vraiment sur les découpages, donc comment on adapte les scènes, comment on passe d'une scène à l'autre, surtout où il y a peut-être les passages un peu flous, ou dans les romans, il y a des choses qui passent plus facilement, même lorsqu'il y a un passage temporel ou un passage qui n'est pas vraiment très très clair lorsqu'on est en train de lire, mais ça fonctionne toujours comme ça. C'est un autre langage, donc on ne le voit pas, on n'est pas censé apercevoir toutes les petites nuances, mais lorsqu'on l'adapte en bande dessinée, il y a une partie d'image qui est très très forte. On est obligé de trouver des solutions. Donc je veux dire que plutôt notre travail a été vraiment sur la mise en scène, sur les découpages et sur cette idée de garder au maximum les dialogues, de garder au maximum l'esprit qui était dans les romans des oreilles, notamment les mystères, l'ironie, ces côtés un peu décalés entre les langages qui est utilisé au niveau des dialogues, ce qu'on voit et l'attitude de certains personnages. Donc je crois qu'une fois qu'on s'était donné ce cap-là, on a partagé vraiment avec des allers-retours l'écriture.
Alors les dessins sont signés Onofrio Catacho. Onofrio on trouve l'atmosphère d'Orwell, de Fantomas, ça vous parle bien entendu.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un dessinateur qui a pas mal travaillé sur des personnages un peu analogues à Fantomas en Italie. Il a beaucoup dessiné pour Sergio Bonelli, qui est le plus gros éditeur de bande dessinée italien, et qui a un peu la mauvaise habitude de faire travailler ses auteurs trop vite. Donc il a des bons auteurs, des bons dessinateurs, mais il leur impose des cadences de travail qui font qu'ils n'ont pas le temps d'aller au bout de leur, de leur talent ou de leur capacité. Et là, en fait, le format de l'album franco-belge ou belgo-français permettait de donner à Onofrio, enfin en l'occurrence de créer un album belgo-italo-français, donc de travailler avec le temps nécessaire pour créer vraiment des pages de qualité, pour donner une idée de la qualité de son travail. C'est quand même quelqu'un qui enseigne la bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, donc c'est un auteur chevronné. Moi je le connais depuis plus de 30 ans, donc voilà, j'avais bien suivi son travail et on cherchait vraiment quelqu'un qui ait la capacité d'avoir un dessin à la fois clair, propre, élégant, dans un style ligne claire, mais pas imité ou copié de quelque autre dessinateur, et puis d'offrir quand même une certaine modernité, c'est-à-dire une lisibilité dans un découpage qu'on essaie de faire moderne, en effet, voilà, quelque chose qui puisse aussi bien satisfaire les lecteurs de bande dessinée franco-belge classique type Blake et Mortimer que des lecteurs plus jeunes qui découvriraient peut-être pour la première fois ce personnage, ces enquêtes fantastiques, cet univers de genre. Voilà.
Et le travail avec lui, cette collaboration, ça s'est fait, vous envoyez systématiquement chapitre par chapitre ou au contraire vous lui avez donné le scénario?
Non, on lui envoie relativement chapitre par chapitre on échange beaucoup tous les trois, comme on n'est pas géographiquement au même endroit ni les uns ni les autres, on se communique beaucoup par mail et par téléphone, etc. Donc on s'échange tout et il nous envoie les crayonnés de chaque planche et éventuellement on lui demande de revoir quelques trucs, de changer une case ou un cadrage. Bon. Mais ça se passe très bien parce qu'il est relativement rapide vu qu'il a été à cette école de la rapidité de chez Bonelli, mais il sait aussi passer le temps nécessaire pour soigner, pour revoir, pour, voilà. Donc nous, on est plutôt satisfait du résultat qui, je crois, est assez agréable à regarder. Et puis il y a aussi des couleurs qui sont très belles, qui sont faites par un coloriste japonais que j'avais utilisé là en tant qu'éditeur sur un autre album et qui, je crois, là aussi apporte des ambiances tout à fait proches du fantastique, en tout cas ce qui cadre bien avec l'univers de Jean Rey, où il y a des choses assez étonnantes au niveau des choix de couleurs qui sont pas du tout dans la tradition un peu plate des couleurs qu'on imagine associées à la ligne claire généralement.
Alors vous êtes aussi dirais-je, des gens de cinéma. Est-ce qu'il aurait pu être envisagé d'une adaptation cinématographique plutôt que de passer par la case BD ?
Oh, oui, enfin, vous savez qu'Alain Resnais a eu pendant des dizaines d'années le projet de faire un Harry Dixon au cinéma et qu'il a fait passer des essais à des comédiens. Il y a eu des scénarios écrits, il a fait des repérages photos sur tous les lieux qui sont cités dans les aventures écrites par Jean Rey. Bon, et malheureusement, il n'a jamais pu aboutir, mais je pense qu'un jour, quelqu'un le fera. Bon, après, je crois que nous, on n'est plus assez dans le circuit pour pouvoir proposer un projet d'une telle ampleur. Mais on imagine en effet qu'une plateforme quelconque pourrait très bien s'emparer de Harry Dixon pour en faire un héros de série ou de mini-série. Je veux dire, ils ont bien réactualisé Arsène Lupin d'une manière un peu étrange et qui a eu beaucoup de succès. Bon, ils font des séries dans des univers fantastiques type Stranger Things qui sont assez voisins des problématiques qu'on rencontre dans Harry Dixon. Donc moi, ça me paraît pas impossible d'imaginer que avec un peu plus de visibilité, ce soit une œuvre qui tente de nouveau quelqu'un pour en faire une adaptation audiovisuelle, en tout cas.
On aimerait bien.
Oui, ce serait bien.
Et une adaptation d'Harry Dixon en webtoon.
Alors,
est-ce que c'est envisageable ? Il y a un rythme peut-être ou une façon, une lecture différente ?
Il y a une façon de lecture complètement différente entre une planche bande dessinée et une webtoon. Déjà, on est sur une lecture case par case, donc ça veut dire qu'en fait, on dévoile une case après l'autre. Et on n'a pas cette vision d'ensemble d'une planche. On perd complètement en fait les rythmes de la planche. Donc, par exemple, si on souhaite avoir une lecture plus lente, donc pour donner du rythme, on utilise l'espace entre une case et l'autre. Inversement, on peut mettre les cases l'un côté de l'autre pour accélérer. Mais il y a aussi toutes ces ce que les Anglais appellent call to action. En fait, le lecteur, c'est lui-même qui décide du rythme des lectures. Donc, pourquoi pas, on pourrait bien l'adapter. Il faudrait faire un travail différent sur le découpage. Après, si Harry Dixon en webtoon, en tant que webtoon, va rencontrer son public, là, ce sera la grande question. Mais moi, je trouve qu'avec notre travail,
Tout est possible.
Tout est possible. Nous aussi, nous adaptons un texte qui naît en tant que roman.
L'écriture d'un scénario pour une BD a des contraintes spécifiques.
Oui, c'est relativement voisin du scénario de cinéma, ceci dit. C'est plutôt qu'il y a des libertés qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas prendre dans un scénario de cinéma où la mise en scène coûte cher. Donc, si on veut mettre une charge de 10 000 cavaliers, c'est un peu compliqué. Même si maintenant, avec les effets numériques, on peut faire des tas de choses, c'est quand même plus simple de le faire en bande dessinée. Voilà, ça demande moins de complications. Là, on a dans ce récit des péripéties qui sont à la limite de l'impossible et du surnaturel. Bon, je ne sais pas si en audiovisuel, elle passerait bien. Et en tant que scénario, on peut faire passer des choses en bande dessinée qui relèvent beaucoup de la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire où on va avoir, par le côté figé du médium, quelque chose qui n'excitera pas l'interrogation chez le lecteur et qui se dira, bah oui, ça passe. Alors que peut-être que si on avait montré la même chose en image qui bouge, ça n'aurait pas été très acceptable.
Le premier tome s'appelle Miss Terrace, en fait, comme le nouveau roman qu'écrit Miss Delphina. Donc, finalement, c'est une histoire dans une histoire qui aurait bien plu à Guerici, finalement.
Oui, c'est une histoire à tiroir. Il y a un roman dans le roman, un récit dans le récit. Bon, il y a des flashbacks. C'est une histoire assez compliquée, quand même, et très alambiquée. Bon, mais elle est drôle parce qu'elle propose à la fois une bonne entrée en matière dans le monde de Harry Dixon, puisqu'on présente le détective, son assistant, le jeune Tom Wills, sa gouvernante, Mrs. Crown, le surintendant de Scotland Yard Goodfield, voilà tous les personnages principaux, et chacun a un petit rôle à jouer. Et il y a un némésis, un archennemi, comme disaient les Américains, qui est le fameux Mysteras, dont on imagine volontiers que Jean Rey a emprunté le nom à Fantomas, évidemment, mais qui n'a pas les mêmes visées que Fantomas. C'est un criminel plus modeste. Enfin, quand même, il fait un peu trembler dans les chaumières. Voilà, donc non, c'était un récit qui était sympa à adapter parce qu'il offrait beaucoup de possibilités graphiques, il y avait beaucoup de rebondissements, plein de surprises, et puis plein d'éléments constitutifs à la fois du canon Harry Dickson et puis du canon de la littérature policière et fantastique, voilà, des spectres sur la lande écossaise jusqu'au tour inaccessible. Une princesse se cache en haut, peut-être, on ne sait pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient très sympathiques pour nous à travailler.
Et Harry a également un père qui est belge et même gantois, qui ressemble un petit peu à un certain Raymond Jean-Marie de Crémer, non ?
Oui, tout à fait. Alors, on dit son père, mais nous, on dit toujours qu'on ne sait pas qui est vraiment l'inventeur de Harry Dickson. On ne sait même pas vraiment d'où vient le nom du personnage, qui a connu bien des rebondissements, puisque depuis la création en Allemagne en 1907 de ce pastiche de Sherlock Holmes, ou de cette copie de Sherlock Holmes, qui s'appelait Sherlock Holmes, et qui a été étouffé dans l'œuf par l'avocat de Conan Doyle qui a dit non, mais vous n'avez pas le droit d'écrire d'autres histoires avec Sherlock Holmes, c'est M. Conan Doyle lui seul qui peut le faire.
Sauf qu'on reste quand même à Baker Street, mais enfin.
Alors voilà, donc ils ont fait, les Allemands initialement ont repris ce Sherlock Holmes apocryphe, on a changé son nom, ils en ont fait le roi des détectives, et puis le roi des détectives s'est affublé d'un assistant nommé Harry Taxon, et puis à un moment, quelque part dans l'histoire, Harry Taxon est devenu Harry Dickson et est devenu le personnage principal. Et donc on ne peut pas vraiment en attribuer la paternité à qui que ce soit. Maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est Jean Rey qui en a fait un héros très mémorable et un peu iconique, comme on dit beaucoup ces temps-ci. C'est un héros qui reste dans les mémoires et qui est, pour moi, au panthéon des grands héros de la littérature policière et fantastique, au même titre que Sherlock ou que Arsène Lupin. Voilà, c'est un grand personnage.
Luana, vous avez été diplômée en scénario. Vous avez aussi étudié la bioénergétique à l'école de psychologie somatique à Rome. Alors je me demandais, ça aide pour écrire un scénario ?
Je ne sais pas si c'est, mais ça nourrit quand même, on sort des réflexions pour pouvoir peut-être jouer avec les personnages, pour pouvoir s'interroger lorsqu'on fait un bande dessinée, comme vous le disiez, on travaille sur une image qui est fixe. Donc l'idée de pouvoir fournir tous les éléments au dessinateur, je trouve que c'est très important. Par exemple, si on part du corps, comment on imagine, comment on voit les personnages pour qu'ils puissent les figer pendant un moment où les corps sont encore en mouvement, où on peut déjà, grâce à l'image, évoquer certains états d'âme ou certaines situations. Donc après, comme tu le montres, on se nourrit de plein de choses et à plusieurs niveaux, on le réutilise même de façon inconsciente. Donc c'est une chose que j'ai étudiée, c'est une chose qui fait partie des
dans le vécu. Dernière question. 40 ans de Starfix, à 20 ans, donc c'est 40 ans, c'est énorme, non ?
Oui.
Ou c'était hier ?
Ben, les deux, en fait. C'est-à-dire, c'était hier, mais je voudrais juste que le hier soit beaucoup plus près, en fait. Malheureusement, enfin, bon, je peux pas dire...
Le dossier.
Ça fait assez partie de mon caractère, en effet. Mais je suis ravi d'avoir fait toutes ces choses formidables à un si jeune âge. C'est simplement que je suis beaucoup moins ravi d'arriver à un âge qui n'est plus si jeune, et où je continue à faire des trucs qui me plaisent beaucoup, avec plaisir, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire que c'est loin derrière, en fait. C'est tellement frais en même temps dans la mémoire qu'on n'a pas l'impression... Bon, puis moi, j'ai surtout pas l'impression d'avoir 40 ans de plus, quoi. C'est ça qui est terrible.
Merci à vous. Et donc, on rappelle donc Harry Dickson, tome 1, Mystérias, qui vient de sortir aux éditions Dupuis.
Merci, Jean.
Merci beaucoup.